parole du jour avec le Père Willem.
Fonder une famille. Lorsque l'Église propose la mission de la famille chrétienne, elle l'appelle à devenir ce qu'elle est, à se penser comme dans un entre-deux, entre ce qu'elle signifie déjà pleinement et une dimension d'épanouissement qu'elle n'est peut-être pas à même de vivre aujourd'hui d'un point de vue moral. La famille a la mission de devenir toujours davantage ce qu'elle est, c'est-à-dire la communauté de vie et d'amour, dans une tension qui trouvera son achèvement, comme toute réalité créée et sauvée, dans le royaume de Dieu. C'est donc entre un déjà là et un pas encore qu'il est possible de situer les quatre devoirs principaux de la famille auxquels s'arrête l'exhortation de Jean-Paul II. Premièrement, la formation d'une communauté de personnes. Deuxièmement, le service de la vie. Troisièmement, le développement de la société et sa participation. Et quatrièmement, la participation à la vie et à la mission d'Église. La formation d'une communauté de personnes, c'est cette première visée de ce qu'est la famille chrétienne qui se présente comme le déploiement des impératifs de la signification aimée pour les différents acteurs. Le couple, la femme, l'homme, les enfants. On signifiera également une attention toute particulière et bien contemporaine à la place conférée aux personnes âgées. Si l'amour est présenté comme la source et le fondement de la communion, la première communion est celle qui s'établit et se développe entre les époux, et elle est appelée à se vivre à trois niveaux de l'existence. Au niveau d'une complémentarité naturelle, au niveau de l'engagement et de la volonté des époux, et enfin, avec le soutien de la grâce. De plus, cette communion s'inscrit par le sacrement du mariage dans l'amour définitif du Christ pour l'humanité, ce qui lui donne sa dimension insoluble. Le don du sacrement est pour les époux chrétiens une vocation, en même temps que commandement, rester fidèle pour toujours, par-delà les épreuves et les difficultés, dans une généreuse obéissance à la volonté du Seigneur. Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Et c'est dans un deuxième temps que l'exhortation apostolique de Jean-Paul II envisage la famille comme lieu où se déploie et se vit cette communion première s'enracinant dans l'amour des conjoints incorporés au Christ. Dans la partie relative à la communion, le document envisage le droit et le rôle des femmes, ce qui montre une proximité des questions sociales et de leur évolution et une référence par rapport au courant de pensée du gender qui commence à se développer depuis les années 1980. La dignité et la responsabilité de la femme se situent dans trois dimensions qui en rien ne signifient le renoncement à sa propre féminité. Tout d'abord, sur la base d'une théologie de la création, sur l'exemple de Marie, mère du Christ, et sur l'attitude de celui-ci à l'égard des femmes, il est affirmé que la femme possède une dignité et une responsabilité égale à celle de l'homme. Cette égalité trouve une forme singulière de réalisation dans le don réciproque de soi entre les époux et dans le don d'eux-mêmes à leurs enfants. Un tel don est propre au mariage et à la famille. Ce don, la raison humaine a l'intuition et qu'elle reconnaît, sont révélés en plénitude par la parole de Dieu. L'histoire du salut, en effet, est un témoignage continuel et lumineux de la dignité de la femme. On retrouve ici un double niveau de compréhension, celui dont on peut faire naturellement l'expérience, et celui que l'on vit dans un regard de foi. Vient ensuite un deuxième niveau d'égalité entre l'homme et la femme, celui d'accéder aux fonctions publiques. Cependant, cette affirmation est mise en tension avec d'autres impératifs. L'égalité d'accès aux responsabilités publiques ne doit pas faire oublier le rôle maternel de la femme, également le lieu de sa propre promotion. Elle est aussi, pour le politique, une invitation à offrir à la femme les moyens concrets de mener conjointement son rôle de mère et de femme inscrite dans la vie sociale et à réfléchir à cet imaginaire contemporain qui ferait de la femme à la maison une sorte de déshonneur. Enfin, la dignité et l'égale responsabilité de la femme sont présentées comme un appel pour l'Église. L'Église, tout en respectant la diversité de vocation entre l'homme et la femme, doit promouvoir, dans la mesure du possible, leur égalité de droit et de dignité dans la vie ecclésiale, et cela pour le bien de tous, de la famille, de la société et de l'Église. Lorsqu'il s'agit de la place de l'homme dans la famille, il est intéressant de constater que c'est à l'égard de son épouse qu'il se trouve situé en termes d'impératif. Il est affirmé qu'il doit avoir un profond respect pour son épouse, invité à découvrir en elle une attitude spirituelle. Ensuite, c'est vis-à-vis de l'ensemble de la famille qu'est rappelée sa responsabilité, comme s'il était sollicité à découvrir au cœur d'une société privilégiant une image autre de l'homme, fort, puissant et chef. L'amour envers sa femme, devenue mère, et l'amour envers ses enfants sont pour l'homme la route naturelle menant à la compréhension et à la réalisation de sa paternité. En s'attardant moins à la place de l'enfant dans la famille qu'aux droits qui lui sont liés, l'Église, soucieuse de répondre à l'acte même du Christ à l'égard des enfants, pose ici avant tout un acte politique inscrit dans une société de moins en moins, ou une société de moins en moins respectueuse des fragilités, particulièrement celle de l'enfant avant sa naissance. La sollicitude pour l'enfant dès avant sa naissance, dès le premier moment de sa conception, et ensuite au cœur de son enfance et de son adolescence, est pour l'homme la manière primordiale et fondamentale de vérifier sa relation à l'homme. Autre défi pour l'Église, découvrir et valoriser le rôle des personnes âgées dans la communauté civile et ecclésiale, et en particulier dans la famille. Deuxième mission de la famille chrétienne, être au service de la vie et de la dignité de la personne humaine. Force est de reconnaître le caractère central de cette question. La famille et le couple ont leur vocation foncière dans l'ouverture et l'accueil de toute vie.